Salut tout le monde, Eliane, Jean et moi, Caroline, on vous souhaite la bienvenue. D'abord, je vais saluer mes copilotes. Eliane, salut.
Allô, Caroline.
Eliane, c'est la reine des quiz musicaux du Bira le lundi. Puis Jean, qui est le créateur du quiz du Bira, salut.
Salut.
Donc, aujourd'hui, c'est notre premier épisode de Questions de feeling. Puis sachez que tous les trois, mais on s'est rencontrés au quiz musical du Bira. C'est pour ça que ça fait... C'est pour ça qu'on va en parler de temps en temps. Donc, dans question de feeling, ben écoutez, on va vous entraîner dans notre univers musical. À chaque épisode, on va se poser une question personnelle à partir de laquelle on va se raconter en chanson par l'entremise de tunes qui ont façonné les passionnés de musique qu'on est devenus. On va vous parler des artistes qui nous font vibrer pour toutes sortes de raisons. Puis par le fait même, on va se révéler par l'entremise de souvenirs. Donc, pour mettre la table encore un peu, je vais laisser se présenter Eliane et Jean qui vont vous accompagner dans Questions de feeling. Ensuite, ce sera moi. Puis, au passage, ben, les amis, j'aimerais bien ça savoir comment vous écoutez votre musique. Eliane.
OK. Donc, Eliane, toi, moi, dans la vie, mon travail, c'est aucunement lié avec la musique. Là. Je suis psycho-éducatrice, puis je fais un post-doc aussi en ce moment là en éducation. Mais pour moi, la musique, ça a toujours été une passion. C'est ce qui m'accompagne dans tout ce que je fais, les grands moments comme le quotidien. La musique, moi, j'adore en écouter, là, comme vous tous. Puis j'imagine les personnes qui nous écoutent aussi. Mais j'aime aussi lire sur la musique, écouter des podcasts sur la musique. Je m'intéresse aux artistes, au processus de création. Tout ça, ça m'enivre, j'aime vraiment. J'ai joué de la musique pas mal au secondaire. Là. J'ai arrêté, mais parfois, je peux ressortir un peu la guitare.
Tu joues quoi, toi? Tu joues de la guitare?
Guitare, piano, accordéon. J'ai eu une phase d'accordéon.
Ben ouais.
Je trouve que je vais en reparler. Ça va revenir.
Ça, je ne m'attendais pas à que tu dises ça. Tu m'as jamais parlé de toi avec
un
accordéon.
Je savais pas ça non plus. Non.
Je vais vous parler de ma reprise de Capitaine Révolte à l'accordéon.
Oh! Oh my my, j'espère.
Je suis sûre que ça va ressortir éventuellement. Donc, je pense que oui, ça... Puis, moi, j'ai une personnalité curieuse, puis je trouve que la musique, c'est un puits sans fond. Tu sais, la musique va toujours être là parmi nous, puis va toujours avoir des découvertes à faire. Fait que c'est quelque chose qui me comble à tout coup. Là. Donc, je pense qu'en résumé, ce serait ça, là, mon rapport à la musique.
Génial. Jean?
Ben moi, la musique, oui. Je suis tombé de là-dedans très jeune parce que à l'époque de Napster, quand c'était big, c'est là, à ce moment-là, que j'ai fait « Ah, c'est quoi ça qu'on peut downloader de la musique? Pourquoi on a besoin de downloader de la musique? » Pour moi, c'était pas important à ce moment-là. Puis quand tu tombes là-dedans puis tu as tellement accès à de la musique plus rapidement, tu es comme « Ah, il y a des enfants que j'ai jamais entendus avant, il y a des styles que je connaissais pas, il y a des bandes que je connaissais pas, il y a même des langues que j'ai jamais entendues avant dans de la musique. » Fait que ça a commencé de même, puis après ça, tranquillement, je tombe dans Musique Plus, puis là, après ça, je tombe dans les achats d'albums chez HMV et tout ça. Fait que ça a parti vraiment de mon enfance, je dirais mi-secondaire, quand je commençais à découvrir des affaires weird et différentes. Puis aujourd'hui, tellement que j'aime ça lire là-dessus, un peu comme Eliane, je me perds des fois dans des wikis, des Wikipédia, là, des pages et des pages de lecture, des fois les documentaires. Fait que c'est ça, je pense que je suis très curieux. Je joue aussi également de la musique. J'ai fait du piano et du drum. Fait que,
ah oui, je savais pas. On va se partir un band.
Ben oui, wow. Vrai. Puis c'est ça, là, c'est vraiment le fait que c'est infini aussi comme ressource. Mm-hmm. Puis aussi, tu voyages un peu à travers les styles que tu connais pas. Puis là, tu découvres des affaires qui viennent de tel pays ou de tel pays. T'es genre, ah oui, ils font de la musique de cette façon-là. Ah oui, il y a des bandes qui chantent de cette manière-là. Fait que c'est ça qui est le fun pour moi. C'est le fait de... Puis je me perds dans ce que je dis, mais je voulais aussi dire ce qui fait en sorte que finalement, aujourd'hui, j'ai tellement de knowledge, de connaissances inutiles dans ma tête que je considère que c'est juste des connaissances musicales. Qu'est-ce que je fais avec ça? Boum, je fais des quiz. Fait que ça sert à ça. Je me dis, bon, ben je vais tout dropper mes connaissances de... Je peux te nommer tous les albums de telle band. Parfait, va dans le quiz, puis amuse-toi là. Puis laisse-moi tranquille. Fait que c'est ça, je me suis parti un quiz pour...
Venez tout le monde au quiz.
Un quiz,
laisse-moi tranquille.
C'est ça. Si t'es mélomane puis le monde est tanné de t'entendre parler de musique, tu viens dropper tout ça dans mon quiz puis là, tu gagnes de la bière.
Dans ce sens-là, okay, ouais, je comprends.
C'est ça que je veux dire. Parce que ça sert à rien que tu que ça fait que tu saches nommer les bandes. C'est comme, c'est vrai.
Oui, ça, ça sert à la bière gratuite.
Ça sert à des quiz musicaux. Ça sert à la bière,
ouais.
Très chouette. Ben,
c'est pas mal, ça. C'est pour ça qu'on fait une émission aussi. Là.
Ouais,
on veut juste utiliser tout ce qu'on sait puis le partager avec les autres qui sont aussi tripeux que nous.
Oui, c'est ça, ça. Ça forge des liens, la musique. Ouais. On en est la preuve. Puis c'est ça, pour ma part, y a, parmi ce qui me passionne le plus, ce qui me tient le plus à cœur dans la vie, ben c'est les arts puis l'environnement. Puis la musique, c'est vraiment une grande, grande histoire d'amour dans ma vie pour laquelle je suis devenue journaliste. Je suis habitée d'une mission, d'une espèce de vocation de vouloir contribuer à faire rayonner les arts d'ici. Je me vois comme une alliée des artistes québécois et québécoises. Puis je suis tellement, tellement fière de ce qui se fait ici. J'écoute considérablement de musique keb. Donc voilà, j'ai voulu mettre ça au cœur de ma profession. Mais sinon, je me souviens aussi, je suis tombée dans la musique tout petite. Mon père m'a souvent dit que lorsque ma mère était enceinte, il me faisait écouter du Pink Floyd, tu sais. Donc, le rock, moi, c'est pas mal le socle de ma passion musicale. Puis, tout au long de ma vie, j'ai toujours été passionnée par les musicographies à Musique Plus puis à Musimax, tout ce qui était documentaires musicaux, mais qui parle par l'entremise de la musique des sociétés.
Génération 90.
Génération 80, 90, 2000, c'est ça. Bon, ça, je les ai tellement écoutées. Puis aujourd'hui, vraiment, la musique, je l'écoute en album, puis elle me suit partout. Je marche énormément, je me déplace en transport en commun. Donc, j'ai toujours des albums qui jouent dans ma tête, dans mes oreilles. Puis à la maison, lorsque c'est pas des albums, ben c'est des émissions d'ici musique puis d'ici première que j'écoute en rattrapage constamment. Donc voilà, la musique m'accompagne chaque jour de ma vie, comme Eliane et Jean. Mm-hmm. Donc, sur ce, ben écoutez, on se lance dans nos souvenirs musicaux. Puis pour notre premier épisode de Questions de feeling, ben on s'est demandé quelles chansons nous ont fait devenir mélomanes.
Et voilà, et je pense que c'est moi qui raconte mon histoire.
Oui, à toi de commencer, Eliane.
Oui, alors qu'est-ce qui m'a fait devenir mélomane? Je me suis posé la question, puis bon, ça commence par un amour de la musique. Fait comment l'amour de la musique est né chez moi? Puis j'ai trouvé que c'était difficile là, d'essayer de retracer des moments. Puis, tu sais, je me disais, pendant l'enfance, là, notre quotidien est parsemé de musique. Là, on apprend des comptines. Les films qu'on écoute, c'est pas mal toutes des comédies musicales. Je pensais aux films de Disney. Est-ce que c'était avec telle chanson que je voulais réécouter? Bref, c'était difficile vraiment là, d'identifier un moment ou un artiste qui m'a fait donner l'amour de la musique. Puis, en y repassant, puis en me replongeant dans mon enfance, le primaire, je me suis rappelée un certain moment, ou en tout cas, je me suis rappelé un événement qui est arrivé ou une période dans laquelle je me suis rendu compte que la musique, c'est quelque chose, c'était comme un vecteur d'émotion. Ça pouvait faire ressentir plein de choses. Puis, je trouvais ça enivrant. Puis, ça m'a revenu pour certaines chansons. Puis, tu sais, à l'époque, j'entendais une chanson, puis je voulais la réécouter. Bien, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas le streaming. Fait que je priais pour pouvoir réécouter ces chansons-là. Fait que c'est vraiment un moment que je me suis dit, waouh, ça me fait voyager, ça me transporte. C'est fou de pouvoir ressentir tout ça. Puis, c'était un peu mélangeant quand t'es jeune parce que t'es pas capable vraiment d'identifier pourquoi. Est-ce que la chanson peut parler de n'importe quoi, mais c'est la mélodie qui te fait ressentir quelque chose. Fait que moi, je me suis rappelée de ce temps-là, peut-être vers 6-7 ans, puis j'hésitais entre deux, trois chansons qui me faisaient ça. Il y aurait pu avoir Madly Deeply-Doo de Savage Garden. Ça aurait pu aussi être Les Canons de Pachelbel. Ça aurait pu être Donne-moi ta chance des bébés, mais celle qui m'a le plus marquée, c'est celle qu'on va écouter pour l'instant.
C'est bien le premier que tu m'as donné?
Ouais.
Celui-là?
Oui, exact. J'imagine que vous la reconnaissez.
Ah oh oui.
Vous connaissez Aïcha.
Merci.
Oui.
Merci, Eliane. Merci de l'avoir choisie.
Je me rappelle être dans ma cour, là, puis j'avais rêvé que j'étais dans le clip d'Aïcha de Khaled. Puis là, je priais pour pouvoir me retrouver dans le clip encore parce que j'étais entourée de la musique. Puis tu sais, Khaled, c'est un monsieur peut-être 40 ans, là. Mais puis je ne sais pas parce que je le trouvais beau, c'est juste je trouvais la musique tellement bonne que je voulais être dans la musique. Puis ça, ça en était comme une obsession. Donc, merci Khaled.
Je sais pas, c'est un des premiers, je sais pas si tu te rappelles, c'est un des premiers mimes que je me rappelle. Il y avait des mimes de ça. Sur ouais, Casa, ouais. Tu downloadais ouais. des vidéos de monde qui faisait du lip-sync dessus, qui jouait leur rôle. Là.
Oui, genre mais la langoureux. Version anglophone, je pense, c'est la version de Outlandish. Ah, parce peut-être. Que, bon, moi, je suis tombée sous le charme de cette chanson-là, mais comme tout le monde, ouais. ça a été un succès international, ça a été traduit dans plus de 20 langues. Puis, mon fun fact, mon fait amusant du jour, saviez-vous que cette chanson-là a été écrite par Jean-Jacques Goldman?
Ah!
Ah, c'est bon, hein?
Ben, voyons donc! Ah, ben, ça précise! Ouais. Je l'aime encore plus.
Oui! Oui. Ben, Jean-Jacques Goldman qui a écrit beaucoup d'albums de Céline Dion, oui. Ben, beaucoup, deux entre autres. Non, mais un auteur, oui. compositeur excellent. Là. Puis, c'est ça. Fait que moi, ça a été une révélation à l'époque. Puis, ça, c'est comme une découverte que j'ai faite en cherchant sur la chanson.
Moi, mon secondaire, Aïcha, tout le monde la chantait au secondaire.
C'est vrai.
J'étais dans un secondaire multiethnique dans le nord de Montréal. Fait que, tu sais, c'était que des gens de couleur qui chantaient ça. Là. Tout le monde la connaissait, tout le monde. En tout cas,
finalement, c'est Jean-Jacques Goldman. Finalement, c'est oui. même pas si ethnique que ça. c'est chanté par Khaled, qui est un franco-algérien. Oui. La première version est sortie en français, mais l'année suivante, il y a eu la version mix, qui était français et arabe. Puis la section arabe a été écrite par Khaled.
Ah, c'est ça.
Puis ensuite de ça, là, ça a été traduit en coréen, en serbe, en mandarin. Ah, puis, fait un autre fait intéressant, il y a Mano, vous connaissez Mano?
Oui.
La tribu de Dana, oui. qui a fait une version bretonne.
Ah oui.
Cette chanson. Ben voyons.
Oui, à partir de ouais, là, c'est, wow. cette chanson-là, puis les autres que j'ai nommées, ça m'a donné l'amour de la musique, ça m'a fait réaliser à quel point j'en voulais plus dans ma vie, puis je voulais continuer d'aller chercher ces émotions-là que la musique me permettait. Que,
cool.
Ça commence avec Aïcha.
C'est bien drôle, ça.
Écoute, je suis tellement contente que tu aies parlé de cette chanson-là parce qu'en fait, c'est une chanson qui n'avait pas marqué mon parcours, que j'ai redécouverte adulte, en fait, grâce aux quiz musicaux.
C'est pas vrai?
Oui, c'est ben Jean non. qui l'avait mise il y a comme, vraiment, je pense, quelques années dans son quiz du Bira dans Villeray. Moi,
ouais, elle m'a comme jamais quitté, cette tune-là.
Mais c'est ça, puis vraiment, quand elle a joué, elle m'a retraversé le corps. Puis depuis, je l'ai remis sur ma liste de courses. Puis vraiment, je me suis rendu compte à quel point c'était un petit chef-d'œuvre, cette chanson. Puis je l'ai, c'est ça, réabsorbée adulte, cette chanson-là. Puis maintenant, je la trouve magnifique, cette chanson. Ouais. Un bijou pop, là.
Oui, ouais, exactement, bijou pop. Moi, c'est la pop qui m'a eu en premier. Fait que c'est pour ça que j'ai mis.
Aïcha. La pop, ben oui. C'est,
ou les canons de Pachelbel.
Ben, j'avoue que moi, les premières mélodies que j'ai entendues, de ce que je me souviens, étant bébé, kid, genre vraiment jeune, c'est la musique classique à travers les cartoons de Looney Tunes et les Tom and Jerry.
Mm. Ah, ben oui.
Il n'y avait que du classique là-dedans, puis c'est là que j'ai commencé à triper sur le classique et c'est là que j'ai commencé à jouer du piano dans des petits jouets piano que mes parents m'avaient achetés parce qu'ils voyaient que j'avais un attrait vraiment vers le classique à travers les cartoons qui mettaient que du classique. Parce que j'imagine que c'était la musique gratuite à l'époque que tu pouvais intégrer dans tes productions.
Fort probablement ce qui était rendu musique publique.
Il y a plein de tunes des fois que j'entends, puis je fais « Ah oui, c'est la scène où Tom il fait un orchestre, puis Jerry le déconcentre. » Je me rappelle en tout cas. Là, on parle pas de ça. moi, ma tune, la tune qui m'a rendu mélomane, en fait, c'est un band. Plus précisément, je vais commencer par parler du groupe. Moi, c'est Metric, un groupe canadien avec Emily Hines qui chante. Puis moi, ça m'avait captivé parce que ça, ce qui se passe, c'est qu'on est, mettons-nous, on est en 2003, disons. J'attends mon ami au centre d'achat parce qu'on va aller acheter des billets pour un show. Parce qu'à l'époque, tu te plaçais en personne puis tu payais cash pour tes billets. Fait qu'on attendait au comptoir de l'abbé pour avoir nos billets, pour aller voir la lutte. Puis là... La Déjà WWE. La ouais. Fait que là, je suis comme, ah, mais ben, mon ami n'est pas encore arrivé. Fait que je vais aller me promener un peu. Puis je me promène. Je m'en vais patienter dans la HMV tout seul. Et là, il y a de la musique qui joue dans la HMV. Puis moi, je suis là. Je l'attends. Puis j'entends ça. Là, je vous fais entendre une tune. Peut-être un peu obscure de Metric. Parce que c'est pas la plus connue. Mais ils ont parti l'album. Fait que la deuxième tune de l'album, c'est ça. Ça s'appelle Hustle Rose. Je vais la mettre un peu en background. Puis moi, j'étais captivé, j'étais genre, Elle est en train de répéter la même phrase sans arrêt. Là, ça dure longtemps. Là. C'est encore ça. Là, je fais « Qu'est-ce qui se passe? » Ça continue. Puis là, moi, je suis comme « OK, qu'est-ce qui se passe? » Je vais glander un peu encore plus longtemps dans la chaîne V. Je vais écouter ce qui se passe. Puis c'est là que mon amour de la musique, j'ai l'impression, est né. Parce que en 2003, ce qui joue à Musique Plus, c'est les Black Eyed Peas. C'est... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Du Sierra. Vraiment de la musique trop... comme ça me rejoint, mais pas assez. C'est pas assez différent de ce que je connais déjà. Parce que moi, j'ai quand même grandi dans la musique urbaine, le hip-hop, le rap. Puis là, c'était encore ça à la télé. Mais là, quand j'entends ça dans le HMV, un band que j'ai jamais entendu parler, une espèce de mélodie un peu planante, un peu électro, avec une voix vraiment... On dirait qu'Emily Hines chante directement à toi. Là, il y a ça qui embarque. Fait que moi... Là, je suis comme, OK, je suis très timide à ce moment-là. J'ai pas fait d'impro encore. Je suis vraiment très... J'étais un petit nerd à l'époque. Là. J'étais, OK, je prends mon courage à deux mains. Je vais aller parler au gars que je connais pas au comptoir. Je vais lui dire qu'est-ce qu'il joue en ce moment. Puis là, il me pointe un album jaune avec la face d'Emily Hines en cartoon dessus. C'est écrit Metric. Je prends l'album. Ça vaut 25$. Je le tourne de bord. 10 tunes, 25$. OK, je vais le prendre. Je vais le faire. Je l'achète. Puis là, c'est à ce moment-là que j'ai acheté un album de manière impulsive, sans connaître le band, sans avoir entendu plus que deux tunes dans le magasin. Je rentre chez nous, puis là, je dévore l'album, puis là, je tombe dans un loop de « OK, c'est quoi Matrix? C'est très bon. » Là, j'entends un album qui n'est pas sorti parce qu'il y avait un album avant ça qui n'ont jamais réussi à sortir parce que le label a fait faillite. J'écoute des tunes, des MP3 un peu trouvées obscurement sur le web. Là, je suis comme « OK, c'est bien bon. » Puis là, je parle de ça à mes amis. Personne ne connaît ça. Ils viennent au Metropolis. Je me trouve un dude que je connais... vaguement dans le cégep. Je le prends avec moi, je suis comme, viens, on va aller voir le show. Puis là, ça part de même. Puis là, je commence à tomber dans le mode de, je veux découvrir de la musique qui joue pas à la télé ni à la radio. Fait que moi, mon amour de la musique, je dois tout à Metric parce que c'est avec cette tune-là puis cet album-là qui m'ont comme déclenché une espèce de flamme de, OK, il y a de la très bonne musique, faut juste que tu fouilles. Puis là, ça, c'était exactement là, en 2003, à l'été 2003. C'est l'album Old World Underground, Where Are You Now? C'est leur premier. Et ça, c'est la tune Hustle Rose. Et malheureusement, ils la jouent plus, cette tune-là, live, parce qu'elle n'est pas connue. C'est pas leur gros hit.
Je l'avais jamais entendu.
C'est ça. C'est la deuxième tune de l'album.
C'est moi, je vais plaider coupable. J'ai jamais écouté cet album-là au complet. Le premier de Metric, je l'ai jamais écouté au complet. Mais c'est sûr qu'ils sont rendus à assez d'albums pour devoir pour en avoir évacué tellement au fil des années. Ouais. Malheureusement. Là.
Je trouve encore que c'est leur meilleur album. Moi. Mais c'est peut-être parce que c'est très, tu sais, deep. Ça vient me chercher. C'est peut-être
ouais,
ça.
C'était nostalgique.
C'est peut-être ça, ouais.
Mais tu sais, demeure que les premières années de Metric sont, moi aussi, à mon avis, parmi leurs meilleures compositions.
Ouais.
Vraiment, moi aussi, j'aime beaucoup Metric. Je trouve ça génial que t'en fasses jouer aussi. Moi, je les ai...
C'est rendu trop gros, c'est plus mon band. C'est plus à moi. Tout le monde connaît ça maintenant.
Quoi? Ouais, c'est ça, je comprends, mais je me souviens de l'époque où vraiment il était en ébullition. Puis moi, je sais que lorsque j'étais au cégep de 2004 à 2007... Metric, c'était vraiment, j'étais en art plastique, puis ça jouait considérablement dans le corridor où j'étais. Puis vraiment, il y avait du trio, puis du Metric. Tu sais, je trouve ça. Il est génial, ce band. Puis moi, c'est vraiment avec Synthetica que j'ai plongé, en fait.
Ah, ça, c'est loin, ça. Ça, je pense que c'est le quatrième ou le cinquième.
Ouais, quelque chose comme ça. C'est ça. J'ai quand même plongé tard dans les albums complets.
Ah, ouais.
Ouais.
Je te suggère.
Ah, c'est sûr que c'est sûr.
Fortement lui.
Un jour, là, je vais l'écouter le premier.
Il y a Dead Disco là-dessus.
Ouais, ouais, ouais. Moi, ils m'ont eu avec Dead Disco que j'avais entendu au cégep, jouer à la radio.
Ben, c'est le même album. Ouais, Dead Disco aussi est bon.
Puis je me dis, OK, waouh, elle nous amène ailleurs. Emily Hines, par exemple, moi, j'ai aussi trippé sur elle. Je vais parler plus tard d'un autre groupe dans lequel
vous avez vu.
J'ai suivi son parcours, je l'ai vu en spectacle, puis j'étais hypnotisée par son charisme, puis. Sa façon de chanter aussi, là.
Je trouve qu'elle a une très belle voix, puis ça vient tout le temps me chercher.
À mon avis, Emily Hines, c'est une des plus belles voix du Canada, là.
Distinctive, vraiment. Là, tu la reconnais tout de suite.
Vraiment, puis ses albums solo sont si beaux. Oui. Vraiment, elle fait de la musique, un petit indie pop, tout doux. C'est très, très, très différent de Metric. C'est beaucoup plus doux.
C'est au piano, c'est tout.
Exactement.
Ben, souvent juste piano, vraiment, mais aussi d'autres.
C'est plus atmosphérique. Un brin sombre sur son premier, la belle indie pop.
À découvrir.
Et voilà, c'est mon tour. Donc, écoutez, je pense que j'aimerais ça. Pourrais-tu, genre, juste lancer le début de la toune? Juste pour...
Début?
Le début, s'il te plaît.
OK.
De Rebellion Lies, de The Arcade Fire. Et voilà, moi, c'est la chanson qui a changé ma vie. Quand je les écoute, ça, c'est le premier album de The Arcade Fire qui est sorti, donc, sur... c'est l'album Funeral qui est sorti en 2004. Puis quand je me souviens encore, le moment où j'ai vu le clip Rebellion Lies, qui était le premier extrait que The Arcade Fire a sorti, c'est la première fois que je l'ai vu à Musique Plus. J'y vivais encore chez mes parents en 2004, j'étais en secondaire 5. Puis... Je me souviens là, avoir écouté cette chanson-là, l'avoir mise sur mon iPod, puis là, je l'écoutais en boucle, en boucle, en boucle. Ce que je fais encore énormément aujourd'hui, écouter des chansons en boucle. Mais en m'endormant, je l'écoutais sans arrêt, en boucle, en boucle. Elle m'a suivi. Puis là, quand j'ai commencé, à partir de ce moment-là, il y a eu un avant puis un après. Puis là, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir... qu'on pouvait greffer aux instruments de base rock du violon, puis créer un son que j'avais jamais entendu, moi non plus par le passé, bien, qui était l'indie rock, qui est devenu par la suite ma musique favorite. Puis, je me souviendrai toujours la ligne de violon de Rebellion Lies, qui est jouée par Sarah Neufeld, m'a tellement, tellement marquée. Je vais vous la faire jouer à l'instant.
Veux-tu que je l'avance un peu?
Oui, tu peux faire jouer l'extrait que j'ai sélectionné.
Plus tard.
C'est vers la fin.
Ouais.
C'est vers la fin. À un moment donné, vers la fin de la chanson, il y a vraiment une ascension. Il y a un crescendo et le violon va bientôt embarquer, le violon de Sarah Neufeld. Bon sens, je l'écoute encore. Ah, tellement.
J'ai des frissons.
Cette ligne-là, c'est ça, cette ligne de violon-là, chaque fois que je l'entends, j'en ai encore la gorge nouée, les larmes me montent aux yeux. C'est tellement, tellement mélodieux. Donc, vraiment, c'était ça pour moi, Arcade Fire. C'est comme Eliane a déjà dit plus tôt, la musique a pris une nouvelle dimension dans ma vie. C'est devenu viscéral. J'écoutais plus la musique de la même façon. Après Arcade Fire, j'écoutais déjà énormément de musique depuis l'enfance. J'étais de la génération des Big Shiny Tunes, j'en écoutais énormément. Mais avec The Arcade, c'était autre chose. C'est la musique allait m'habiter, allait jouer un rôle primordial dans ma vie, allait vraiment se fondre dans ma peau. Puis vraiment, les albums de The Arcade Fire m'accompagnent depuis. Je les ai jamais abandonnés. Puis c'est ce qui a changé ma vie.
Moi, ça m'a pris du temps embarqué dans le moule, ouais, pas dans le moule, dans le beat, la folie Arcade Fire, je me souviens, parce qu'à l'époque, j'étais très, comme t'as entendu, Matrix, c'est très, il y a du beat, c'est électro, ça t'accroche plus vite, ça, c'est comme, ça prend son temps pour s'installer. Ouais. Puis moi, je me suis dit, pourquoi tout le monde trippe là-dessus? Puis, ça m'a pris du temps, mais c'est avec Neon Bible, moi,
l'album d'après. Album. Ouais.
Moi, je suis tellement triste d'avoir manqué la vague montréalaise, tu sais, d'amour d'Arcade Fire, là, leur début dans les églises ukrainiennes. Je me rappelle du moment que j'ai écouté Rebellion Light, dans la voiture avec ma mère qui allait me reconduire chez un ami. Puis les deux, on fait « Wow, c'est quoi? » En plus, ils viennent de Montréal, mais j'habitais à Repentigny. J'étais pas encore vraiment dans la scène. Mais tu sais, j'allais pas voir des spectacles autre que les Cowboys Fringants, je pense, à l'époque, là, ou des groupes québécois.
Oui.
Fait que j'ai pas participé à ça, mais j'arrive au cégep, puis j'ai connu un ami qui, lui, les avait tous vus dans les sous-sols d'église, puis la jalousie, là, qui m'emparait après, j'aurais vraiment aimé assister à ça, là, parce que je pense que c'est un moment précieux dans l'histoire montréalaise, là, pour tous les amateurs de musique.
Moi, je trouvais ça le fun, des fois, c'est arrivé une fois, je pense, ou deux, j'ai de croiser des membres dans My Land, je fais comme, est-ce que c'est cool, ils sont là?
Mais oui, c'est ça, Régine Chassagne, Win Butler, qui sont les meneurs du groupe.
Le agricole était bon avant que ça ferme, le resto.
Ah, le resto, mais oui, effectivement.
Puis dans le petit agricole, lui, il mixait après. C'était vraiment hot.
Ouais. En tout cas. Oui, vraiment. Puis, tu sais, The Arcade Fire, ils ont fait partie des figures de proue du Montreal Sound, le fameux son de Montréal qui a défini la première moitié des années 2000. Donc, vraiment, les mélodies d'Arcade Fire ne cesseront jamais de m'émouvoir. Ils n'ont jamais cessé de le faire. J'aimerais toujours la voix de Win Butler.
C'est un très
puis
bon
de
album.
Tout, vraiment. Puis tous les membres, la plupart des membres ont fait des albums solo qui sont aussi fort intéressants. Donc voilà, je passe le relais à Eliane pour une deuxième chanson qui a
deuxième
remarqué
ronde.
Pour la deuxième chanson qui a remarqué son parcours de mélomane.
Oui, ben là, je vais rentrer plus dans le même moule que vous. Là. Fait que,
Montréal?
Non,
ça, c'est pas Montréal, c'est vrai.
C'est pas Montréal, non. C'est pas un groupe montréalais, mais c'est pas si loin.
Oui.
Mais au sens, le groupe qui m'a fait devenir mélomane. Tu sais, où la phase de ma vie où je me suis mis à là, comme plus triper musique, mais musique alternative. Donc, c'est ça. Moi, j'ai parti, qu'est-ce qui m'a fait aimer la musique? Aïcha de Khaled. Ensuite de ça, qu'est-ce qui m'a fait... Tu sais, au moment où c'est devenu une partie de ma personnalité, quasiment, là, que l'amour de la musique, ça faisait partie de moi. Puis, tu sais, n'importe qui, à partir de ce moment-là, qui me connaissait, savait, bon, ben Eliane, elle adore la musique. Tu sais, si on a des questions, c'est vers Eliane qu'on va. Puis moi, c'est ça. Après ma découverte de l'amour de la musique... Au secondaire.
On l'a pas vu, mais elle a fait comme un move de...
Oui.
Juste
comme primaire plus pop, mais rendu au secondaire, là, moi, c'était rock. Là. Puis c'était Sean 97, là,
97.
À côté, parce que là, j'avais un groupe, puis là, on jouait des chansons rock. Puis pour nous, la meilleure époque de la musique, c'était les années 70. Puis aujourd'hui, ils s'en faisaient plus de bonne musique. Tu sais, dans cet esprit-là. Dans cet état d'esprit, oui. Ah, oh, j'aurais tellement aimé ça, aller voir les disait, OK, oh, imagine, Pink Floyd, tu sais.
Les Beatles.
Oui, c'était mon obsession, là, comme le rock. Puis moi aussi, comme tu l'as mentionné, j'allais sur LimeWire, pas Napster. Moi, c'était LimeWire.
Ouais, LimeWire venait
après. Oui, exact. Fait que j'écoutais les chansons à la pièce, puis je me faisais des listes de lecture. Puis c'était vraiment là, ancré là, années 60-70, un peu de chansons des années 80, mais c'est ce qui me faisait vibrer, c'est ce que j'aimais. Puis j'ai un prof de secondaire qui m'a parlé, en secondaire 4, je pense, qui me parlait du courant indie rock, puis la musique indépendante. Puis à quel point c'est bon. Puis il dit, il y a Arctic Monkey. Puis honnêtement, il s'en fait de la bonne musique aujourd'hui, Eliane, là, puis arrête, là, tu sais, change. Profite de ce qui t'offre à toi en ce moment, puis tu vas pouvoir en plus aller voir des spectacles des artistes, puis voir à leur apogée.
Ils sont vivants.
Tout à fait. Puis ça a pris un certain temps, mais il y a un moment où j'ai écouté un peu Arctic Monkey, j'aimais ça aussi. Mais ce qui m'a fait changer de cap, là, puis là, être vraiment une fan d'indie rock, c'est ce groupe-là. C'est Broken Social Scene avec l'album éponyme Broken Social Scene. C'est là que j'ai mis de la musique, là, puis je l'ai écouté, puis je disais, OK, non, j'arrête tout. Je m'installe dans mon lit, puis j'écoute l'album. Première fois que, tu sais, la musique m'accompagnait pas, mais la musique, c'était l'acteur principal de mon moment. Je sais pas si vous comprenez.
Puis le titre, c'est...
Our Faces Split the Coast in Half, c'est ça?
Oui. Okay.
C'est là que je me suis perdue juste dans mes pensées, à écouter, à prêter attention à chaque instrument, chaque changement d'intensité. Puis là, je me suis mise à écouter des albums au complet, à triper sur les groupes actuels, à me tenir au courant des nouvelles sorties.
Broken Social Scene, c'est un band de Toronto, c'est ça?
Ouais,
mais ils sont comme 2000 là-dedans.
C'est comme, c'est ça, c'est un super groupe. Il y a eu au début beaucoup d'Emiliens, là, je pense qu'il en a fait moins partie, mais il y a La Force qui en fait partie, Feist aussi en faisait partie. C'était comme le super groupe canadien avec parmi les meilleurs artistes dans ce collectif-là.
Ouais, quand on allait les voir en concert, on savait jamais qui
non,
allait.
C'est ça.
Qui allait
Kevin
chanter.
Drew était pas mal toujours là. Kevin Drew, après les autres, Brandon Canning ont fait des albums chacun de leur côté qui sont super bons aussi. Mais moi, cet album-là, puis ça aurait pu être aussi peut-être Radiohead qui m'a aussi influencé à écouter des albums au complet, mais ça, c'est ça. Là, je suis devenue mélomane avec Broken Social Scene. Puis la sphère alternative, tu sais, puis à un moment donné, je me rappelle que j'ai eu le vertige de me dire, hey, Eliane, on est en 2003, 2004. toi, tu découvres plein de bands alternatives qui sont tellement bons. Fait qu'imagine, dans les années 70, il y a des bands comme ça, dans les années 80, il y en a. Fait que tu vas jamais être assis. Ta soif va toujours continuer, puis elle va toujours être comblée en même temps parce qu'il y a plein de
Selon groupes. Wiki, il y a une rotation de 27 membres dans le
dans ce collectif gigantesque.
Ouais. D'ailleurs, il y a Arthur Quill qui joue dans Stars, le chanteur de Stars, un band que j'ai vraiment aimé aussi.
Oui, aussi, oui. La chanteuse de Stars, Amy, dont le nom famille m'échappe, Amy quelque chose, elle aussi, c'était une des voix principales de Broken Social Scene durant quelques années. Quand
Amy Millian.
Voilà.
Ouais.
Oui. Ben, c'est ça, c'est un gros collectif très... Ben oui, c'est comme c'était très vivant à l'époque, je me rappelle, on parlait beaucoup d'eux autres. Puis... je pense que je les ai vus une fois à Chicago aussi. Mais...
Ouais, oui, moi aussi, je les ai vus. À une certaine époque, c'était, il était pas tout à fait, c'était pas la tête d'affiche, mais ils jouaient vers la fin de soirée. Là.
Oui, puis je pense qu'il y a un groupe qui avait annulé et qui avait prolongé leur set. Puis en plein coucher du soleil, je pense que c'était en 2008-2009.
Exactement.
C'était excellent. C'était
exactement.
Mon premier à Chicago, c'était en 2009.
Je pense que c'était là. On était sûrement là.
Ouais.
Oui, moi aussi, j'y étais.
Oui, oui.
C'est ça, on était déjà liés. Par les premières éditions de Chicago. Mais ouais, vraiment, Broken Social, c'est vraiment un de ces bands, justement, c'est un de ces groupes qui font partie de du fameux son montréalais aux côtés, comme vous avez dit, des Stars, des Wolf Parade, des We Are Wolves et compagnie, de Stills. Donc vraiment, c'est un son qui est tellement... un son qui est reconnaissable, mais intemporel à la fois. Puis ça se peut-tu que Broken Social Scene... est toujours actif.
Oui, toujours actif. Des albums, oui. Et ils ont fait une je sais pas si c'est une tournée ou juste une série de concerts du 25e anniversaire de cet album-là, là, éponyme, ou du précédent. Mais non, ils sont toujours actifs. C'est rare ces temps-ci, par exemple, qu'on voit Emily Haynes ou Feist se joindre à eux pour leur spectacle.
Effectivement, c'est
mais,
ça. À un moment donné,
mais il y a la force là, que moi j'adore aussi.
A sorti un album récemment, elle.
Oui, ouais, qui est excellente.
Oui. C'est à mon tour. Mais je veux pas que personne me juge parce que je m'en vais quelque part de vraiment random. Ben, pas random. C'est-tu random? Parce que là, je voulais mettre un band québécois qui me rappelle mon enfance de petit gars qui découvre la musique. C'est le band québécois qui m'a accroché rapidement à l'époque. J'étais quoi? Là? On était encore en secondaire. Là, c'est tout le temps le secondaire. Mais c'est vraiment là que je me suis mis... Parce que je me suis dit... Il faut se rappeler, là, le français, c'était une langue que j'ai apprise en arrivant ici, au Québec, parce que moi, je suis pas né ici. Fait que là, j'étais beaucoup anglophone au départ dans ma musique et même ma télé puis le cinéma. Puis je me suis dit, c'est quand que je vais commencer à triper sur de la musique en français? Je le sais pas. Finalement, au secondaire, petit virage punk, ska, pop. Fait que là, je sais pas si tu vois où je m'en vais, mais je m'en vais vers un band québécois qu'on oublie aujourd'hui parce que, tu sais, ça arrive. On oublie des bands qui ont pogné pendant un petit peu, une petite année peut-être. C'est un band qui s'est pointé au salon Pepsi Jeunesse, puis je les ai vus. Je capotais, j'ai eu des autographes d'eux autres. Regarde, je vais mettre la toune, puis si ça te rappelle quelque chose, tant mieux. Sinon, ben, je t'explique. S'il y avait un Big Shiny Toons québécois, ça serait certainement là-dessus.
C'est Yellow Molo?
Non.
Je sais.
Ça s'appelle Venus 3. Ceux qui me connaissent un peu savent que j'ai vraiment trippé sur ce band-là parce que j'étais vraiment dans une phase... Tu sais, là, on est tous un peu passés par la phase punk ska. Ça se peut que non, mais moi, je sais que je suis passé par là. Puis ça, c'est un band qui m'a vraiment captivé parce que j'étais comme « Ah, c'est bien hot, c'est en français. » Puis ça ressemble à des bands américains que j'écoute. J'écoutais quoi, là? Il y avait quoi? Pennywise, il y avait...
A Real Big Fish,
oui,
ces groupes-là. Là.
J'ai eu une mini-phase de même qui m'ont fait... tripper sur ça, un peu NoFX aussi.
Goldfinger.
Ouais.
Goldfinger,
parce que j'ai joué à Tony Hawk, tu sais, ils sont là. Mais c'est ça, là, ça m'a accroché quand j'ai entendu sa musique plus.
C'est le Golden Age du ska, là.
Je mets ça dans mon sac de tunes qui m'a rendu mélomane, parce que c'est le premier band québécois, en étant kid, qui m'a fait vraiment tripper. Puis j'ai vraiment... C'était mon band préféré. Puis quand le Salon Pepsi Jeunesse était en ville, puis on dit que Venus 3 serait là en perfo puis en autographe, j'ai dit à mes amis, si on y va, là, c'est sûr qu'il faut que je me stache au stage de Venus 3 puis je veux leur autographe. Fait que d'un moment donné, j'ai juste divisé. J'ai fait, OK, allez voir les comédiens. Moi, je vais aller voir Venus 3 puis j'allais avoir des autographes de Venus 3. Il y avait même Infinité ce jour-là.
Ah, oh, ben oui.
Si!
Oui, oui. Tu sais, c'était le golden age. Moi, je trouve que c'était vraiment hot pour la musique québécoise qui allait vers les jeunes là, à ce moment-là, adolescence. Là.
Mais c'est vrai que le Salon Pepsi Jeunesse a été très important, je pense, pour toute une génération de mélomanes en devenir dont on faisait partie. C'est vraiment ça. Les artistes allaient aux jeunes beaucoup plus facilement. Dans ce genre d'événement-là, c'était pas un gala, c'était vraiment juste un événement.
Oui, je me rappelle. J'étais allé voir eux, puis après ça, j'ai eu des autographes de Carl puis Maria Lopez, puis j'étais content.
Oh, ben
ils
étaient
tous dans la même journée.
Moi, l'année que je suis allée, là, il fallait attendre des heures et des heures juste pour rentrer dans le Salon Pepsi Jeunesse.
Ah, ouais.
Après ça, tous les événements. Peut-être que j'étais un peu plus tard, puis c'était devenu trop populaire.
Peut-être.
Puis...
Mais moi, oui, j'ai fait de la file. Je voulais voir Carl puis Maria, c'est sûr, puis je voulais voir Phineas 3. Fait que ça, c'est mon choix de... Ma deuxième toune de l'épisode, l'une va sans l'autre, de Vénus 3. Ça m'a conquis quand j'avais 12-13 ans.
La musique québécoise. Puis, ce qui est cool, c'est quand t'es jeune et que tu te mets à aimer les groupes québécois, ben, ils sont bien plus faciles à rencontrer ou à aller voir en spectacle. Il y avait des années où je pouvais voir 3 ou 4 fois les Cowboys Fringants là, dans une même année parce qu'ils faisaient la Saint-Jean, ils faisaient un spectacle avec Thor Charland à côté de Repentin. Tu sais, c'est comme un avantage assez intéressant.
C'est ça.
Là.
Puis moi, j'étais content.
Ils vont en région, tu sais.
Ouais, puis j'étais content d'avoir trouvé mon band québécois là, à ce moment-là. Là, il y en a beaucoup. J'écoute que ça. Des bands québécois, j'en mange, mais aujourd'hui. Mais à l'époque, j'en avais pas beaucoup d'options, on dirait. Puis il y avait ça qui me parlait.
Vulgaire Machin.
Ah, Vulgaire Machin, c'est arrivé un peu plus tard.
Ah, c'est arrivé plus tard. Okay.
Ouais. C'était plus au cégep, moi.
OK.
Moi, c'est tellement le genre de chanson que je suis heureuse de réentendre dans des quiz musicaux, puis le clip me revient en tête. Puis pour vrai, quand quelqu'un met cette toune-là dans un quiz, il y en a beaucoup qui s'en souviennent. Donc vraiment, c'est un groupe qui, non, n'a pas fait long feu, mais qui a marqué beaucoup de personnes de notre génération, je pense bien.
Oui,
ouais.
Je connais l'album par cœur.
Oh, beau souvenir.
C'est
une fixation. Sait-on jamais peut-être un retour un jour de Vénus 3?
Mais tu sais, à l'époque, les albums, la raison pourquoi on les écoutait over and over, c'est que le streaming n'existait pas encore. Fait que là, avoir de la musique, c'était un peu plus dur. Mm-hmm. Fallait que tu attendes de downloader. Mm-hmm. Fait que si t'avais un album, c'était celle-là que tu écoutais en boucle.
Ouais. C'est pour ça qu'il y a tellement d'albums qu'on connaît vraiment, vraiment par cœur.
C'est un peu pareil pour les films, le cinéma. Là. À l'époque, on regardait les mêmes VHS et les DVD. Là, tu cliques sur un autre film et ça part. Là.
Mais moi, ça va être le cas justement de l'album dont je vais vous parler en ce moment, qui est le repère tranquille de Vincent Vallière. Cet album-là, c'est le 4e de Vincent Vallière. Puis... C'est un album qui est sorti en 2006. Puis, à ce moment-là, je travaillais au Music World, à la Place Rosemère, dans la banlieue d'où je viens. Puis, je me souviens, quand l'album est sorti, Vallière, il a fait paraître d'abord la toune « Un quart de pièce », qui avait son clip à Musique Plus, que je regardais, que j'adorais. Puis là, à la boutique, j'ai décidé de faire jouer. En fait, l'album a joué un jour. Je pense que c'est ma gérante qui l'avait fait jouer. Puis évidemment, on faisait jouer les albums au complet dans les boutiques de musique. Et là, vers la fin, il y a cette chanson-là qui surgit. « Les parages de l'éternité ».
Une poignée d'hommes et de femmes quittent les parages de l'éternité. La place se vide sans histoire, reste juste de l'aliment et de rêve sur le plancher.
En poussant la porte, la draft me fait du bien. C'est ça, cette chanson-là, c'est une chanson j'avais 19 ans, ça m'a fait découvrir, ça m'a reconnecté à tout un pan musical. Que j'écoutais moins à ce moment-là, le folk. Vraiment, le parage, le repère tranquille m'a reconnecté au folk, qui est certainement aujourd'hui un de mes genres de musique de prédilection. Puis cette chanson-là, Les parages de l'éternité, c'est une chanson que j'ai découverte. Donc, quand je vivais encore en banlieue, quelques années plus tard, je déménageais à Montréal. Puis, dans cette chanson-là, Vallière, il relate une soirée dans un bar. Et la sortie du bar... lorsque la lune le ramène chez lui. Puis il parle de la vie de quartier. puis des gens qui boivent dans les bars pour toutes sortes de raisons. Puis je me souviens à quel point tout me marquait dans cette chanson-là. Je pense que c'est du lap steel qui fait le passage musical, qui est une espèce de leitmotiv instrumental qui est le refrain dans cette chanson-là. J'adorais ce passage musical que je trouvais complètement enivrant. Puis quand j'ai déménagé à Montréal, puis j'écoutais cette chanson-là, je me suis mise à écouter cette chanson-là le soir en revenant des bars, moi aussi. Je me souviens plus, je pourrais pas dire le nombre de fois que cette chanson-là m'a accompagnée au retour de mes fermetures de bars, tu sais. Puis vraiment, je découvrais mon amour des atmosphères, des chansons nocturnes, célestes. Puis sur cette chanson-là, je trouve que Vallière est allée chercher des arrangements, justement, très célestes, qui nous transportent, qui nous apaisent, qui nous enivrent. C'est évidemment une chanson que Vallière a fait, je pense, une seule fois en concert, lorsqu'il a joué entièrement Chacun dans son espace, qui est sorti en 2003, puis Le repère tranquille, sorti en 2006. Il y a quelques années, il a joué ces deux albums-là consécutivement lors d'une soirée spéciale. Puis vraiment, c'est une chanson que je n'ai jamais oubliée, puis qui m'a juste reconnectée, c'est ça, à un côté très, très, très folk qui m'habite, puis qui a confirmé que la musique atmosphérique allait être ce que j'allais rechercher le plus en musique. Puis c'est à mon avis, encore aujourd'hui, un des meilleurs albums de Vincent Vallière. Puis évidemment, c'est grâce à cet album-là aussi que j'ai pu découvrir que tout un univers aussi de la musique québécoise s'est ouvert à moi avec les Michel-Olivier Gass, Olivier Langevin, Galaxy, Mara Tremblay, Fred Fortin. Vraiment, Vincent Vallière m'a entraîné dans ce monde-là. Puis ce sont tous des artistes qui sont aujourd'hui des artistes que j'aime de façon inconditionnelle sur cet album. Tu sais, au début, à ce moment-là, Vincent Vallière, il jouait sur scène avec Louis-Jean Cormier, avec Olivier Langevin par après. Enfin, c'est, à mon avis, un immense album.
Wow! Moi, c'est... J'ai plus de souvenirs avec Chacun dans son espace, je pense, avant.
C'est si bon.
Ouais, au secondaire, là, que l'album était sorti, puis ça, je l'écoutais en boucle. Je connais probablement les chansons par cœur, mais vraiment accroché.
D'ailleurs, les petits bruits que vous avez entendus, c'est parce que Caro, elle a les albums dans ses mains.
C'est ça.
Elle les a apportés en studio.
Ben oui, on dirait que c'est...
Quand elle les dépose, c'est le petit bruit que vous
entendez. C'est vrai, je suis désolée, c'est les vestiges de... Mais
t'as le droit de parler avec... T'as le droit d'avoir les objets avec toi, là, c'est parfait.
Ouais, vous l'avez pas entendu dans Arcade Fire parce que lui, il est en carton. Oui. Ça faisait moins de bruit quand elle le manipulait.
Je pense un des premiers albums en carton que j'ai vu dans ma vie.
Ah oui? Moi, c'était Metric, Old World Underground. Il était en carton.
Celui de Broken Social Scene aussi.
C'est
vrai. Il est en carton, oui.
Puis ça, au début des années 2000, c'était pas encore fréquent. Ça arrivait, mais c'était pas fréquent.
C'est vrai.
Voilà. Donc, c'est ça.
L'épisode 1, théoriquement, on a terminé.
Oui.
Ben, on a nos coups de cœur.
Le temps. Je sais, j'allais là.
OK.
Je voulais juste dire que les épisodes vont tout le temps être... on va tout le temps présenter deux tunes chaque selon la thématique. Là, vu qu'on a terminé, on a un petit peu de temps encore. On va aller avec, rapidement, des coups de cœur actuels. Donc, là, on sort de notre nostalgie, là, on sort de la thématique, puis là, on va faire une petite partie tout le temps. Quand il nous reste un peu de temps en fin d'émission, on va juste parler de qu'est-ce qui nous fait triper en ce moment.
Puis comme notre émission, c'est des questions, fait questions de feeling. On est allé aujourd'hui dans la nostalgie, qu'est-ce qui nous a fait devenir mélomane. Puis à la fin, c'est toujours la petite question, qu'est-ce qui te fait triper en ce moment? Ou c'est quoi ton obsession du moment? Puis ça va être pour laisser de la place à de l'actualité musicale.
Oui, fait que là, je pense qu'on a un peu de temps. Tu peux commencer, Eliane, si tu veux présenter quelque chose
que
t'as trippé.
Bien sûr que je veux.
Actuellement.
Oui, actuellement. Cette semaine, je suis tombée sur le nouveau groupe ou le nouveau projet qui s'appelle Unessential... Je savais que ça existait. Unessential...
Unessential.
Unessential oil.
Non-essentiel.
Ouais. Des huiles non-essentielles.
Oui.
Okay.
Voilà.
Unessential oils.
Exactement. J'adore son nom, mais je suis pas capable de le prononcer, mais je trouve que c'est original. C'est un
d'ailleurs,
bon nom d'artiste.
D'ailleurs, on va devoir faire une playlist pour chaque épisode pour vous ayez plus, pour que ce soit plus facile à suivre
oui,
si jamais
exact.
On n'est pas capable de prononcer.
C'est une excellente idée. On va pouvoir faire ça. Donc, Unessential Oil, qui est le projet du chanteur et compositeur du groupe Plants and Animals, donc c'est un Montréalais. Puis, c'est un nouveau projet qui qui décrit comme jazz, mais l'extrait que je vais vous faire écouter, je sais pas, je pourrais décrire ça jazz, mais c'est principalement instrumental. Il veut se concentrer sur les performances des musiciens. Il dit que ça influence aussi du Tropicana puis du jazz. Je vous laisse aller, là. C'est principalement instrumental, mais il y a une petite mélodie qui arrive, ouais, qu'on entend. Distrust the Magician. C'est tellement bon. Moi, j'ai été happée, là. Tout de suite, il m'a eu. Sa deuxième chanson est bonne. Son album va sortir le 31 mai. Gardez ça sous vos radars.
Oh oui. J'adore Benson Animals, donc c'est sûr que je vais écouter ça.
D'ailleurs, 2024, là, on va se le dire, là. On est pas au milieu de 2024 encore, puis c'est déjà le... J'ai déjà une liste pleine de trucs à écouter. C'est
tellement.
Ouais, fait que c'est ce qui me fait triper en ce moment.
Ah, je l'ai monté, je pensais que j'entendais quelqu'un. Ah, voilà.
On peut passer à la suivante.
On connaît bien sa belle
voix.
Oui,
on connaît sa voix. Ouais. C'est 5 minutes et demie, la progression, elle reste relativement semblable, mais avec des petites nuances là, dans les musiciens. Les percussions sont super bonnes. Bravo.
Très chouette.
Moi, je vais aller rapidement avec une découverte. J'irai plus avec un album parce que c'est ça que je fais en ce moment, c'est me rattraper dans les albums. Et celui que j'ai découvert récemment, c'est l'album de la Canadienne Ali X. Elle fait de la pop. Que je qualifierais comme de la pop dans le futur. Il y a toujours une espèce de thématique un peu futuriste dans ses paroles et dans son ambiance.
On l'entend déjà.
En ce moment, c'est mon album. J'allais dire mon album pop de l'année, mais est-ce que The Last Dinner Party, c'est pop?
Plus rock.
Ok, oui. Fait que je peux dire que c'est mon album pop de l'année, ouais. Ali X, parce que The Last Dinner Party aussi, j'adore ça. Mais vous voyez la vibe un peu. En tout cas, je vous le recommande de jeter un petit coup d'œil sur l'album de Ali X qui s'appelle Girl With No Face. Puis la tune que vous entendez, c'est la pièce titre. J'ai rien d'autre à dire à part que c'est vraiment de la très bonne pop qui se prend pas au sérieux puis qui s'en va un peu dans une espèce de thématique un peu futuriste, un peu rétro-ish. Fait que voilà, j'en ai mis un au hasard de même, puis je me suis dit, ça se donnerait le ton. Fait que si vous êtes curieux, Ali X.
Excellent. Ben écoutez, pour ma part, une des chansons que j'ai le plus écoutées depuis le début de l'année, c'est une chanson unique qui est sortie il y a quelques semaines. Ça s'appelle « Avant de redescendre » de Lucille et Marco Emma. Écoutez ça. Déjà, je vais être transparente. Lucille, c'est un ami à moi de longue date. Raphaël Bussière, c'est un ami que je connais depuis le cégep maintenant, mais je suis fan fini de sa musique. Lucille, à mon avis, Lucille a maintenant un mini-album puis deux albums-là à son actif, son plus récent étant Snake Eyes, qui est sorti en 2022. Puis lorsqu'il a sorti son premier EP en 2018 sous le nom de Lucille, j'ai tellement accroché parce que Raph, il allait dans des eaux indie, justement, de l'indie rock vaporeux, dans la pop rêveuse que j'adore et qui se fait pas tant que ça au Québec. Puis depuis, Lucille, il a quand même multiplié les collaborations cette année. Avant de redescendre avec Marco Emma, il avait déjà sorti l'été passé un duo avec Thaïs. Il y a 2-3 ans, il avait fait un beau duo avec Thierry Larose aussi. Puis donc vraiment, les collaborations lui vont très très bien. Puis cette chanson-là, Avant de redescendre, c'est vraiment montre à quel point je trouve que Raph, puis là, vraiment jumelé avec Marco et Emma, montre son talent de mélodiste. Il se permet un pop rock décomplexé, doux, simple, mais poignant, accrocheur. Vraiment, j'écoute cette chanson-là en boucle quand je la pars, puis elle accompagne mes marches le jour, puis elle m'aiguille le cœur, mais tout en le caressant au passage. En fait, je trouve que c'est un petit bijou de chanson, cette chanson avant de redescendre. Puis Marco Emma, c'est un artiste que j'ai découvert en première partie de Gab Bouchard durant sa tournée Graphing. Donc, je trouve que ces deux voix-là se marient très, très bien. Donc, voilà, une belle chanson à écouter ce printemps.
Avec un petit son country.
Oui, absolument.
Sur celle-là, en tout cas, Lucille, c'est bon.
C'est l'année du country, hein, on va se le dire.
Ah, puis Lucille a toujours eu des influences country-esques, puis ça lui va tellement bien. Puis moi, je vous avoue que j'adore le country. Donc, voilà, le country folk, vous allez sûrement en entendre passablement de mon côté. Voilà.
Ben, merci.
Ben, écoutez... Ben oui, ça y est, on est déjà rendu à la fin de notre premier épisode de Questions de feeling. Merci, merci les amis d'avoir été à l'écoute.
Oui.
Écoutez, Eliane et moi, on tient quand même à remercier Jean de s'être occupé de la technique. Merci beaucoup, belle amie. Puis écoutez, on vous revient prochainement avec un autre épisode. Donc, pour le moment, tout le monde, écoutez, on vous souhaite de la musique plein les oreilles puis plein le cœur. Bye tout le monde, prenez soin de vous.
Bye!
Ciao!